Chers frères et sœurs, donc les disciples avaient imaginé un déroulement de l'histoire et ça ne s'est pas passé comme ils avaient imaginé. Nous espérions, et puis c'est notre cas aussi. On imagine toujours un chemin, si possible, qui aille vers la réussite où tout va bien. Et puis, ce n'est pas toujours comme ça que ça se passe. Et il est très intéressant de voir dans ce passage d'évangile comment Jésus vient les rejoindre. On voit bien, il n'apparaît pas en disant « C'est moi, je suis ressuscité, vous pouvez, c'est bon, oubliez tout le passé, et puis voilà, c'est réglé. » Jésus ne fait pas comme ça. Comment ? C'est très intéressant de voir, sinon ça serait quelque chose de plaqué. Non, en fait, ils sont bloqués. Pour les récits de la résurrection, il y a trois éléments qui reviennent constamment. Le tombeau vide, les apparitions, et puis selon les Écritures. Alors là, ils savent que le tombeau est vide, en tout cas, s'ils croient les femmes, ça je ne sais pas. Mais alors, ce n'est pas vraiment une apparition de Jésus, mais c'est les anges qui... Elles ont même eu une vision des anges qui disaient qu'il était vivant. Voilà. Mais le troisième élément, il n'y est pas encore, selon les Écritures. Et alors, du coup... Ce qui est intéressant, c'est justement Jésus les fait cheminer. Ils ne marchent pas seulement physiquement sur la route, mais dans leur tête et dans leur cœur aussi. Donc, ils vont marcher et je voudrais relever avec vous trois étapes dans leur cheminement. La première étape, ça sera le fait que Jésus leur fait relire pour voir qu'il y a une cohérence. Il y a un logos, comme disait Benoît XVI. Il y a une cohérence dans tout ça. Ce n'est pas des petites choses ou des grandes choses les unes à côté des autres. Il y a une cohérence, il y a un fil rouge. Le deuxième élément qui est très important, c'est ne fallait-il pas qu'il souffre, que le Christ souffre pour entrer dans la gloire? Alors, ce fallait-il pas, ça nous donne des boutons quelquefois, mais Jésus relie les Écritures justement par rapport à ce fallait, cette nécessité mystérieuse de la souffrance. Et puis, le troisième élément de leur cheminement, c'est le moment où ils prennent l'initiative d'inviter Jésus, et alors Jésus, à la fraction du pain, se fait reconnaître. Donc, premier élément, c'est plutôt la cohérence. Alors, la cohérence, derrière cette cohérence, c'est la fidélité de Dieu dans son amour. C'est vraiment le premier élément. Et Jésus leur fait relire toutes les Écritures, il devait y avoir quelques kilomètres, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. La plupart d'entre vous êtes allés à la vigile pascale. On a plein de lectures à la vigile pascale. On en a quelquefois 9. Alors on pourrait se dire, mais c'est la vigile pascale, on annonce la résurrection, voilà, c'est bon. Chaque lecture va annoncer la résurrection de Jésus. Et non, ce n'est pas ce qui se passe dans la vigile pascale. On reprend de la création, on fait tout l'itinéraire, un peu comme avec les disciples d'Emmaüs, pour montrer qu'il y a une cohérence dans l'action de Dieu. C'est ce qu'on voit par exemple aussi dans la prière eucharistique numéro 4. On voit c'est le dessein d'amour de Dieu. Voilà, il a de la suite dans les idées, le bon Dieu, et de la suite surtout dans son cœur. Quand il aime quelqu'un, c'est pas de façon ponctuelle, ça dure. Alors, je ne sais pas si l'argument de Jésus, il est quand même un peu subtil. Au point de départ, on est un peu déconcerté. Vous vous rappelez l'épisode avec les Sadducéens. Les Sadducéens ne croyaient pas en la résurrection, donc ils veulent ridiculiser les choses. Ça, c'est une chose à ne pas faire. Si on discute, ce n'est pas pour ridiculiser l'autre. Mais en tout cas, c'était leur posture. Et ils disent, tu vois, il y a une femme, elle a eu 7 maris, elle n'a eu aucun enfant. De qui elle sera mariée? Alors Jésus, à un moment, prend un argument qui peut nous paraître un peu subtil. Voilà ce qu'il dit. Que les morts ressuscitent, Moïse lui-même le fait comprendre dans le récit du buisson ardent, quand il appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Tous, en effet, vivent pour lui. Quand Dieu se lie à quelqu'un, ce n'est pas pour un moment déterminé, c'est pour l'éternité. Et donc, ça appelle la résurrection. De ce point de vue-là, Saint-Pierre, dans la première lecture, on voit que Le psaume 15 a été relu dans cette perspective. Alors, nous est proposé dans la première lecture et dans le psaume responsorial, comme ça, si on n'a pas compris une fois en une session de rattrapage. Tu ne peux pas m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption, parce que tu m'aimes. Donc, il y a une cohérence. Si Dieu nous aime, il peut que nous ressusciter. Alors, il y a une expression qui m'a... Il n'était pas possible que la mort retienne Jésus en son pouvoir. C'est pas possible, nous dit Saint Pierre dans son discours. C'est pas possible. Ça serait pas cohérent avec l'amour de Dieu. Alors, c'est cette première chose qui, selon les Écritures, c'est entrer dans cette cohérence de la fidélité de l'amour de Dieu. Et pour nous, c'est important aussi de nous remettre, parce que dans les épreuves, on a vite fait d'oublier cette cohérence de l'amour de Dieu. Mais elle est belle, cette cohérence de l'amour de Dieu. Ça, c'est une première raison pour laquelle Jésus leur fait relire les Écritures. Il y a une cohérence, il y a un logos. La deuxième raison, c'est que donc les disciples d'Emmaüs sont bloqués par la souffrance de Jésus. Nous espérions... Les grands prêtres et nos chefs l'ont livré, ils l'ont fait condamner à mort, ils l'ont crucifié. Ils sont bloqués par ça. Ça n'aurait pas dû arriver. Alors, quelquefois, on aimerait faire marcher la machine à remonter le temps, mais non, ça n'existe pas. Et alors, leur espoir est un peu cassé. Mais ça, ça date pas des disciples d'Emmaüs. Déjà, vous vous rappelez, Saint-Pierre, si vous le trouvez entre autres au chapitre 16 de Saint-Matthieu, hein, il fait cette belle profession de foi, tu es le Messie, le Christ, le Fils du Dieu vivant. Bon, alors là, on se dit, ah là là, il est au sommet. Et juste après, à partir de ce moment, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il fallait, toujours ce fallait, il lui fallait partir pour Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes, être tué et le troisième jour ressuscité. Et Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Pas de chance, c'est ce qui est arrivé. On bute sur cette question de la souffrance. Pourquoi cette souffrance? Et alors, c'est là que c'est très intéressant de voir qu'il y a un texte que vous avez entendu en première lecture le jour du Vendredi Saint. Un texte qui est vraiment déterminant, absolument déterminant, pour comprendre ça. C'est Isaïe 53, donc c'est le quatrième chant du serviteur, comme on l'appelle souvent. Je vous en lis juste un petit extrait. En fait, c'était nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Et nous pensions qu'il était frappé, meurtri par Dieu, humilié. Or, c'est à cause de nos révoltes qu'il a été transpercé, à cause de nos fautes qu'il a été broyé. Le châtiment qui nous donne la paix a pesé sur lui. Par ses blessures, nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait son propre chemin. Mais le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes à nous tous. Là, c'est un passage absolument déterminant dans la parole de Dieu, ce Isaïe 53. Parce que jusque-là, la souffrance, vous connaissez l'histoire de Job, plus ou moins. Job, il avait, mettons, je ne me rappelle plus les chiffres, 1000 chameaux, et puis tout se casse sa figure, et puis il n'a plus rien, il est sur son tas de fumier à se gratter avec un tesson. Et puis après, au lieu de 1000 chameaux, il en a 3000, et puis il a encore plus d'enfants, et puis voilà, c'est encore mieux. Ça, c'était à une période de la révélation. Mais avec Isaïe 53, c'est pas ça. C'est que la souffrance, on l'oublie pas. La souffrance a une dimension rédemptrice. Alors là, c'est un passage absolument déterminant. Mais ce n'est pas des passages agréables, donc on a tendance à sauter dessus, et les apôtres en premier. Et du coup, il fallait qu'ils souffrissent. Ça, ils ne pouvaient pas l'entendre. Et nous, on a beaucoup de mal à l'entendre. Mais c'est important parce que Jésus, après sa résurrection, les traces des clous ne sont pas effacées. Il a les traces des clous parce qu'on n'efface pas. Dans notre histoire, on n'efface pas les moments douloureux. On essaie de les assumer comme on peut et avec la grâce de Dieu, mais on ne les efface pas. Justement, ce passage d'Isaïe 53 est déterminant. C'est pas, voilà, on efface et puis on repart comme si de rien n'était. Non. Là aussi, il y a un logos, il y a une cohérence dans l'amour de Dieu. La souffrance, Dieu peut s'en servir. Alors, je suis d'accord avec vous, on ne cherche pas la souffrance, hein, c'est évident. Et puis, on a bien du mal à faire avec quand elle arrive. Mais si vous avez entendu la deuxième lecture aussi, ça a été absolument déterminant pour les apôtres parce que tant qu'ils n'avaient pas intégré ce passage d'Isaïe, ils étaient incapables d'intégrer la résurrection de Jésus. Parce que pour eux, non, c'était une chose qu'il fallait oublier, un moment plus que désagréable qu'il fallait oublier. Alors que non, il ne faut pas l'oublier. Alors voilà entre autres ce que dit Saint-Pierre dans la deuxième lecture. « Vous avez été rachetés de la conduite superficielle héritée de vos pères. C'est par un sang précieux, celui d'un agneau sans défaut et sans tache, le Christ. » Et un peu plus loin, dans sa première lettre, Saint-Pierre fait comme une paraphrase du cantique du serviteur souffrant. C'est cette paraphrase qu'on entend tous les dimanches pendant le carême, le cantique que l'Église nous fait chanter tous les dimanches. Voilà, pour que ça nous pénètre. Vous vous rappelez peut-être aussi, dans les Actes des Apôtres, qu'est-ce que lisait l'eunuque de la reine Candace quand il retournait sur son char et qu'il a trouvé Philippe sur son chemin? C'était le cantique du serviteur souffrant, Isaïe 53. Et alors Philippe lui explique, ben voilà, ce serviteur, je peux te dire qui c'est Jésus. Alors, du coup, tout le puzzle, il y avait des morceaux les uns à côté des autres. Là, ils ont trouvé la clé pour comprendre. Ce n'est pas des choses dispersées. Et c'est pour ça que dans les premiers chapitres des Actes des Apôtres, on donne souvent, à plusieurs reprises en tout cas, le titre de serviteur pour désigner Jésus, en référence à Isaïe 53. Et pour nous, c'est précieux parce que, justement, la résurrection, ce n'est pas un euphorisant pour oublier ce qui est eu difficile. C'est, selon les Écritures, c'est pour nous apprendre à relire notre histoire et trouver une cohérence dans l'amour de Dieu qui intègre la souffrance. Voilà. Ça, c'était les deux premiers points. Et puis le troisième point, c'est le moment où, par la fraction du pain, on pourrait dire, Jésus reconnecte les disciples d'Emmaüs à sa présence vivante. Parce que là, à la limite, on pourrait dire, bon, ils sont un peu dans leur tête, ils réfléchissent, etc. Et puis, à certains moments, Jésus fait semblant. Alors, on dit, tiens, pourquoi il fait semblant? Simplement, il ne veut pas s'imposer. Et Jésus ne s'imposera jamais auprès de personne. Jésus respecte profondément notre liberté. Mais dans tout le cheminement qu'ils ont parcouru, il a levé petit à petit les obstacles qui les bloquaient et qui faisaient que ça, non tant que ce n'était pas cohérent, ils n'étaient pas capables d'accueillir la nouvelle de la résurrection. Et alors, à ce moment-là, on voit leur acte de charité, ils l'invitent à rester. Ça montre qu'ils ne sont plus seulement dans leur tête. Dans l'acte de la charité, on rejoint la réalité concrète, l'autre, il a besoin de moi. Ils ne sont plus enfermés en eux-mêmes. On le voit bien, s'ils étaient enfermés en eux-mêmes, ils l'auraient laissé partir. Ils sont plus enfermés dans leurs pensées mortifères à ce moment-là. Ils sont plus enfermés dans leur statut de victime à ce moment-là. Et c'est parce qu'il y a cette ouverture de cœur que Jésus, à ce moment-là, peut aller un peu plus loin dans la révélation. Alors c'est là qu'il y a la fraction du pain, hein, c'est comme ça qu'on désigne l'Eucharistie. Elle aurait été insignifiante s'ils n'avaient pas fait les étapes auparavant. On pourrait dire qu'à ce moment-là, le Logos se fait chair. Ils ne sont plus dans les discours. Ils rencontrent la personne de Jésus. C'est beaucoup mieux de rencontrer, d'avoir des idées sur les gens, c'est une chose, mais de rencontrer les gens, c'est autre chose. Alors, bien sûr, Jésus était déjà présent dans sa parole, etc. Mais le sacrement de l'Eucharistie nous met en contact avec la personne même de Jésus. C'est l'auteur de la grâce qui est là. Alors, il pourrait s'écrier un peu, vous vous rappelez de Jacob, là. Ah, Dieu était là, je ne le savais pas. Mais c'est un peu leur réflexe. Bien sûr que Jésus était là, mais c'est à ce moment de la fraction du pain où leurs yeux s'ouvrent. Alors ça correspond bien entendu au déroulement de la messe ou dans la liturgie de la parole. Là, on prépare nos cœurs, nos intelligences, il ne faut pas les mettre entre parenthèses. Mais après, on n'est plus seulement à ce niveau-là, on passe à un autre niveau pour rencontrer la personne même de Jésus, à un autre niveau, on pourrait dire, pour la communion avec la personne elle-même. Alors, à ce moment-là, on voit que jusque-là, ils traînaient un peu les pieds pour partir de Jérusalem. Ils allaient sans doute pas très, très vite. Et puis là, alors que la nuit est déjà tombée depuis le temps, et puis ils repartent en vitesse dans la nuit, ça leur fait plus peur. Voilà, parce qu'ils ont fait cette rencontre avec la personne vivante de Jésus. Alors bon, on peut prendre exemple sur eux aussi. Il y a des choses difficiles dans la vie de chacun, dans notre vie ou dans des gens qui nous sont proches et ça nous affecte. Alors la première chose, c'est certainement de nous nourrir de la parole de Dieu selon les Écritures, de nous nourrir pour voir quel sens ça peut avoir dans la perspective du bon Dieu. Comment ces choses difficiles peuvent s'intégrer au dessein d'amour de Dieu ? On ne le voit pas forcément très vite, il leur a fallu du temps pour cheminer jusqu'à Emmaüs. Et puis après aussi, de ne pas oublier de sortir de soi-même par un acte de charité, de ne pas rester dans nos pensées, mais à un certain moment de sortir par un acte de charité, et c'est souvent là que Dieu nous révèle son visage. Alors que Marie nous aide à faire tout ce cheminement. Amen.